Bienvenue à toutes et à tous. Enfin, il y a encore de la place. Il commence par l'allemand, parce qu'en fait, la conférence sera en allemand et traduite, donc ça sera bilingue. Ceux qui parlent les deux langues pourront profiter deux fois. Pour le même prix, hein, donc ça vaut la peine. De conférence pour privé. Voilà. N'hésitez pas à rentrer, parce qu'on va commencer maintenant. Donc bienvenue, re-bienvenue à toutes et à tous pour cette 35e foire EcoBio. Commencer à Ruffac, et depuis une dizaine d'années, c'est la 10e année qu'on est maintenant ici à Colmar, au parc exposition, parce que tout simplement elle a grandi. Elle est toujours organisée par toute une équipe, par une association, toute une équipe de bénévoles. Qui se réunit tout au long de l'année, et puis on a aussi maintenant deux salariés qui nous aident parce qu'il y a toujours plus de travail à faire pour l'organisation. On tient toujours à préciser qu'en fait toute la foire fonctionne sur une économie tout à fait transparente, hein. À l'époque des Panama Papers, ça vaut la peine de le dire, vous ne verrez aucun logo en dessous de la foire, il n'y a aucune subvention d'aucun organisme quelconque, que ce soit public ou entreprise. Donc tout le fonctionnement de la foire est fait par le travail des... Tout tient en fait à l'économie du billet d'entrée que vous payez, des stands payés par les personnes qui prennent des stands, les exposants, et puis le travail bénévole et salarié. Bon, voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de mystère derrière. Il n'y a pas de fonds cachés qui nous forcent à dire ça ou à ne pas dire ça. Ce qui arrive quand même dans beaucoup de lieux, y compris dans les écoles aujourd'hui. Les grandes écoles, ça c'est dramatique. Voilà, et le thème de cette année, c'était « Osons rester humains ». Pourquoi on a pris ce thème? Parce que quand on regarde l'actualité, on peut se poser vraiment la question « Qu'est-ce que c'est être humain ou devenir humain ?» Et c'est pour ça aussi qu'on a pensé inviter Vera Bessner, qui va nous parler de l'aspect politique de la question, parce que qu'est-ce que c'est une politique humaine, ou qu'est-ce que c'est une politique qui permet à chaque être humain d'y prendre part? Ça devient une question brûlante, hein. En France, on est déjà en période préélectorale, on pense déjà au futur président, enfin, ça discute déjà dans tous les coins, donc je pense qu'on est en plein dans le thème. Donc voilà, ça, c'est pour faire vraiment le lien avec ce thème, hein. Osons rester humain. Je vous signale aussi, mais je vais demander avant à Cara. Mais je vous signale donc à la fin, ceux qui voudront réécouter la conférence, vous pourrez acheter un petit CD qui est vendu par la radio qui est à l'entrée. Et je remercie beaucoup Gérard d'avoir pris du temps entre différents voyages et choses qu'il a à faire. Il est très pris en ce moment d'avoir fait des tours par Colmar. Merci beaucoup. Et puis bonne conférence. Moi je vais traduire, donc on va faire ça consécutif par petites phrases.
Oui, bonjour. Je vais parler allemand. Alors, guten Tag. Ich bin sehr froh, dass Jean-Michel das übersetzen wird und Sie in beiden Sprachen das hören werden. Wir sind noch ein bisschen beschäftigt, uns hier gut einzurichten.
So. Voilà, Pierre est très content que je puisse le traduire. On s'installe encore, essayez, c'est bon. Voilà.
Ich möchte ein bisschen insgesamt über die Zeit und die Situation auf der Welt heute sprechen. Darüber, wo wir stehen und in welcher Richtung eine Entwicklung, eine sinnvolle Entwicklung gehen könnte.
Je voudrais parler de notre époque et de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans le monde et de l'orientation sensée vers laquelle nous pourrions nous diriger, hein. Comment trouver du sens en fait vers l'avenir.
Und ich möchte mit dem Thema der Landwirtschaft anfangen. Aber ich möchte ganz bewusst dann den Kreis noch sehr viel größer ziehen.
Je voudrais de manière très précise commencer par le thème de l'agriculture et ensuite étendre le cercle des thèmes de manière beaucoup plus large.
Mir scheint, die Landwirtschaft ist heute in einer merkwürdig unverstandenen Situation in dieser Welt.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui l'agriculture est vraiment tout à fait mal comprise. On ne comprend pas l'agriculture dans le monde moderne.
Wir stehen ja als Menschen sozusagen zwischen Erde und Himmel und bilden in einer gewissen Weise die Brücke zwischen diesen beiden Sphären.
En tant qu'être humain, nous sommes entre la terre et le ciel et nous formons une sorte de pont entre ces deux mondes.
und versuchen aus Gedanken, aus Ideen heraus auf der Welt tätig zu sein und die Verhältnisse zwischen uns, zwischen den Menschen und die Verhältnisse auf der Erde zu gestalten.
Et nous essayons à partir d'idées d'organiser des relations sur Terre entre les êtres humains et aussi entre nous, êtres humains et la Terre, la nature.
Und in diesem Zusammenhang hat sich anfangs sehr klein und dann immer größer werdend und jetzt von einer gigantischen Größe eine eigene ökonomische Sphäre mit ganz eigenen Gesetzen ausgebildet.
Et à partir de ces relations, et à partir des origines, c'est développé peu à peu une sphère économique qui maintenant atteint des dimensions gigantesques.
Es gibt einen Bereich der Ökonomie, in dem all die Gedanken, die heute das wirtschaftliche Leben tragen und bestimmen, keinen Sinn machen, sondern nur zerstörerisch sind.
Il existe un domaine de l'économie dans lequel justement toutes les lois économiques qui dominent aujourd'hui notre société n'ont aucun sens et n'ont qu'une action totalement destructrice.
Und dieser Bereich ist die Landwirtschaft.
Et ce domaine, c'est justement celui de l'agriculture.
In gewisser Weise eigentlich die umfassendste und großartigste und auch berührendste Form von Ökonomie.
Et d'une certaine manière, la forme la plus belle, en fait, et la plus touchante et la plus importante, la plus originelle de l'économie.
Und die Landwirtschaft hat eine viel größere Bedeutung für uns und für die Erde, als uns das im normalen Bewusstsein klar ist.
Die Agriculture a une signification beaucoup plus importante pour nous et pour la Terre que nous n'en avons conscience d'ordinaire.
Denn sie gestaltet unsere Landschaft, in der wir leben. Längst leben wir nicht mehr in Urwäldern, sondern praktisch überall auf der Erde, in Kulturlandschaft, von Menschen gestaltete Landschaft.
Parce que d'une part, elle forme, elle façonne tous nos paysages. Ça fait depuis longtemps déjà que nous n'habitons plus du tout dans des paysages naturels, dans des forêts originelles, mais dans un paysage qui est façonné par l'agriculture.
Und es ist für die Zukunft der Menschheit und des einzelnen Menschen von eminenter Bedeutung, welche Qualität diese Landschaft hat, nach welchen Gesichtspunkten sie gestaltet ist.
Et c'est la manière dont ce paysage est façonné. Les critères selon lesquels, d'après lesquels le paysage est façonné, donc la qualité du paysage est éminemment importante pour l'avenir des êtres humains sur Terre, pour l'avenir de l'humanité.
Et zugleich gestaltet die Landwirtschaft uns selbst, unseren Leib. Denn unser Leib erneuert sich alle 7 Jahre vollständig und bildet sich aus den Stoffen und Kräften, die wir großenteils über das Essen von der Natur aufnehmen.
Et en même temps, l'agriculture nous façonne nous-mêmes, crée notre corps, puisque tous les 7 ans, nous renouvelons toute la substance de notre corps, et donc toute cette substance est issue de tout ce que nous aurons consommé, en fait. Donc elle nous forme nous-mêmes.
Das heißt, unter einem bestimmten Gesichtspunkt könnte man sagen, es gibt eigentlich keine bedeutendere Form der Wirtschaft als die, die sowohl die Erde pflegt, als auch unser eigenes Instrument, unseren Leib, bildet und pflegt, die Landwirtschaft.
Et d'un certain point de vue, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'activité plus importante que l'agriculture, puisqu'elle forme tout notre environnement, toute la terre sur laquelle les paysages sur lesquels, dans lesquels nous vivons, et aussi notre propre corps.
Und wenn wir jetzt sozusagen in die ökonomische Wirklichkeit der heutigen Welt schauen, dann stellen wir fest, dass die Landwirtschaft bestenfalls noch eine Randexistenz hat, eine marginale ökonomische Bedeutung.
Et si nous regardons la situation actuelle, la place de l'agriculture dans la situation actuelle, nous constatons que, tout au contraire, l'agriculture se trouve avec une existence très... elle est vraiment marginale, merci.
Und dass die Wirtschaft auf allen Ebenen und in allen Bereichen getrieben ist von Konkurrenz- und Profitgesichtspunkten und von abstrakten Gesichtspunkten der Steigerung der Effizienz und der Produktivität.
et toute l'économie est vraiment conduite par des points de vue de profit, hein, et qu'on s'appuie en permanence sur la concurrence et sur une certaine efficacité qu'il faut toujours améliorer, hein, sur une recherche d'efficacité permanente.
Wir sehen aber auch, dass wenn wir die Landwirtschaft nur unter diesem Gesichtspunkt betrachten, dass wir sowohl die Landwirtschaft als auch die Erde als auch uns selbst Schritt für Schritt zerstören.
Et nous pouvons facilement voir que si nous considérons l'agriculture avec ces mêmes critères économiques, nous allons détruire l'agriculture, nous allons détruire la terre et nous allons nous détruire nous-mêmes.
Also überall da, wo es nur um abstrakte Ergebnisse geht, um Zahlen und Werte in Zahlenkolonnen, um Effizienz und Produktivität und andere Gesichtspunkte demgegenüber keine Rolle mehr spielen, überall da produzieren wir am Ende Totes, nicht mehr Lebensmittel, sondern Mittel, die den Menschen zerstören, und wir zerstören unsere Kulturlandschaft.
Donc partout où on ne tient compte pour pratiquer l'agriculture que des critères de comptabilité, des chiffres en fait, et qu'il n'y a pas d'autres aspects qui, pris en compte, et ben on détruit nos paysages on se détruit nous-mêmes, on détruit notre corps humain.
Was wir dann heute machen, ist, dass wir sehen, das geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, das geht nicht unendlich, und dann bilden wir große zentralistische politische Einheiten, die dann das Geld in Form von Subventionen, Beihilfen und so weiter nach politischen Gesichtspunkten verteilen.
Et pour aider, pour éviter que la catastrophe totale dans l'agriculture, la manière de régler ça aujourd'hui, c'est de créer des grandes institutions politiques donc, qui vont décider de soutenir donc, par des subventions la pratique agricole d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ça, venant tout à fait d'un point de vue politique.
Aber das ist nur eine Krücke, dass die Landwirtschaft nicht so schnell stirbt, dass noch etwas davon bleibt. Und es hilft ihnen trotzdem nicht, den richtigen Preis zu bekommen und das richtige ökonomische Verständnis in der heutigen Welt zu finden.
Mais en fait, si on regarde bien, il ne s'agit que d'une béquille qui empêche que l'agriculture disparaisse totalement, en fait. Et ça, même ces béquilles, donc ces subventions, ne permettent pas vraiment aux agriculteurs, aux paysans d'être rémunérés correctement et puis de vraiment redonner à l'agriculture sa place sa véritable place dans la société. C'est vraiment une béquille.
Je pense que pour comprendre le grund dafür zu verstehen, muss man sich einige Dinge klar machen, von denen ich nur eines jetzt ausführen möchte aus Zeitgründen.
Et pour bien comprendre les raisons plus profondes de ceci, il faut comprendre, saisir un certain nombre de points dont je voudrais surtout détailler un pour des raisons de temps.
Die unglaubliche Effizienz- und Produktivitätssteigerung der heutigen Wirtschaft ist vor allem von zwei Faktoren getrieben.
L'efficacité hein, et l'augmentation énorme de la productivité est vraiment déterminée par deux facteurs aujourd'hui dans l'économie. Hein.
Der erste Faktor ist Spezialisierung.
Le premier facteur, c'est la spécialisation.
Wir zerlegen komplexe Zusammenhänge in viele einzelne Schritte und verteilen die auf der Erde und unter den Menschen, und jeder macht nur noch ein Spezialprodukt, und am Ende wird alles zusammengeführt.
Donc le premier, c'est la spécialisation. Hein. Nous divisons chaque activité en multitude de petites tâches très spécialisées que nous répartissons entre un grand nombre de personnes, et chacun ne fait qu'une toute petite, très compliquée, une toute petite partie du travail.
Die zweite entscheidende Triebkraft für diese Effizienz- und Produktivitätssteigerung ist die Globalisierung.
Et la deuxième force qui pousse en fait vers cette augmentation de productivité, d'efficacité, c'est la mondialisation économique.
Das heißt auch, dass die Ökonomie sich immer mehr löst von den Boden, auf denen sie stattfindet, von den Menschen, die dort wirken, und dass man prinzipiell jederzeit Produktionsstätten verlagern kann nach Rumänien, nach Taiwan oder sonst wo auf der Erde.
C'est-à-dire qu'en fait chaque activité économique se sépare tout à fait de l'endroit précis où elle avait lieu, et qu'en principe, en fait, avec la mondialisation, on peut déplacer n'importe quelle activité économique, n'importe quelle entreprise dans n'importe quel pays, par exemple en Roumanie ou à Taïwan ou ailleurs, à tout moment, sur une simple décision.
Ökonomisch betrachtet wird die ganze Welt in einen riesigen Wettbewerb getrieben, Und man produziert dort, wo es am günstigsten ist, am billigsten und wo die Abgaben, die man bezahlen muss, am niedrigsten sind.
Et d'un point de vue global, on pourrait dire que toute l'économie...
Man produziert da, wo es am billigsten ist und die Abgaben am niedrigsten.
Oui, la conséquence de ça, c'est qu'on cherche vraiment à ne produire que là où les salaires sont les plus bas, où il y a le moins d'impôts à payer et où les conditions de production sont les plus avantageuses.
Aber neben den Schattenseiten, die ich jetzt gerade mit Absicht angedeutet habe, hat das natürlich auch eine faszinierende, eine großartige Seite.
Bien sûr, à côté de cet aspect négatif hein, de cette pratique, on peut dire qu'il y a aussi un côté fascinant, un côté tout à fait brillant.
Dass eigentlich kein typisches Produkt der heutigen globalen Wirtschaft mehr von einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen alleine gemacht werden kann, sondern dass im Grunde die ganze Welt zusammenarbeitet und zusammenhilft, um ein typisches Produkt, wie sagen wir, so ein Telefon herzustellen.
Cet autre aspect donc, qui est vraiment fascinant, c'est le fait que pour un produit comme par exemple un smartphone, hein, on n'est plus du tout dans la situation où une personne réalise ce produit, ou même un petit groupe de personnes réalise ce produit, mais que pour chaque nouvelle marchandise, nouveau produit, on a besoin en fait du monde entier pour le réaliser.
Und es wird durch die angedeuteten Schritte in Verbindung mit der technologischen Entwicklung immer einfacher, es geht immer schneller. Und solche Produkte werden praktisch jeden Tag billiger.
Et avec les étapes donc, qui ont été décrites, créer de tels produits, ça devient chaque jour moins cher, ça devient toujours plus facile, ça devient toujours plus rapide et toujours moins cher.
Und so ist das mit praktisch allen Waren in der heutigen Ökonomie.
Et c'est le cas avec quasiment toutes les marchandises de l'économie actuelle.
Nur in der Landwirtschaft ist es anders.
Et c'est seulement dans l'agriculture que les choses se passent autrement.
Die Landwirtschaft wird heute in den gleichen Konkurrenzkampf getrieben, aber sie kann an ihm nicht wirklich teilnehmen, oder wenn sie an ihm teilnehmen, wird dann um den Preis ihrer eigenen zerstören.
Et le problème, c'est que l'agriculture est amenée aussi à entrer en compétition, dans cette même compétition, concurrence permanente, et si l'agriculture participe à cette compétition, alors c'est au prix de sa destruction totale.
Also das heißt, sie ist heute Teil des globalen Marktes geworden, sie nimmt an diesem weltweiten Warenaustausch teil. Ihre Produkte stehen im Vergleich zu anderen Produkten, wo im Verhältnis die Preise ständig fallen. Deswegen gibt es einen massiven Druck, dass auch landwirtschaftliche Produkte billiger werden müssen. Aber auf diese Weise zerstört die Landwirtschaft ihre eigene Grundlage.
Et le problème pour l'agriculture, c'est que si elle se met en concurrence avec l'ensemble des autres productions industrielles, elle devrait soumettre aussi ses produits, enfin les produits agricoles devraient devenir toujours plus, moins chers, donc les prix devraient toujours baisser. À partir du moment où on fait ça, c'est-à-dire qu'on produit pour un marché global, des produits agricoles pour un marché global et qu'on baisse toujours les prix, ça amène directement à la destruction de l'agriculture, de la qualité des produits agricoles, à la destruction de la qualité des produits agricoles.
Denn zum einen ist die Landwirtschaft anders als die Produktion solcher Geräte, unmittelbar gebunden an Ort und Zeit, an den Boden, an die Landschaft, an die Jahreszeiten, an alles das, was mitspielt und von Menschen nur sehr begrenzt beeinflusst wird.
Parce qu'à la différence de tout ce qu'il faut pour faire ce genre de produit, dans l'agriculture, l'agriculture est totalement liée à un lieu précis, à un terroir, à un paysage, à un climat, à un moment de l'année, etc.
Zum anderen operiert die Landwirtschaft mit natürlichen Zyklen, organischen Zyklen, auch mit kosmischen Zyklen und eignet sich praktisch überhaupt nicht für die Zerlegung in sehr viele einzelne Schritte und für die Spezialisierung.
Et de l'autre côté, l'agriculture est toujours intégrée dans des grands cycles de vie, des cycles cosmiques, des cycles de la nature, et donc elle n'est absolument pas adaptée à être découpée, à être spécialisée en une multitude de petites tâches.
Also überall, wo ich den großen Zusammenhang, sagen wir, des Wasserkreislaufs, oder der Gestirne, oder der Jahreszeiten, oder der Lebenskräfte im Boden und in den Pflanzen, vergesse, nicht mehr sehe und nur noch auf ein bestimmtes Produkt und die Steigerung seiner Effizienz achte, überall da zerstöre ich den Zusammenhang.
chaque fois que je ne tiens plus compte du cycle général de l'eau, par exemple, ou du cycle même des influences cosmiques, ou du cycle de la Terre, et je veux simplement produire, isoler une production de l'ensemble du contexte, alors là, je vais agir de manière destructrice.
Also in dem Moment, wo einem klar wird, dass die Landwirtschaft dieses Rennen nie gewinnen, sondern immer nur verlieren kann, weil sie in dem Wettbewerb um mehr Produktivität, mehr Effizienz, mehr Spezialisierung gar nicht teilnehmen kann, in dem Moment versteht man, dass landwirtschaftliche Produkte völlig anderen Gesetzen unterliegen als alles andere, was heute auf den Markt kommt.
À partir du moment où j'ai compris que l'agriculture, fondamentalement, de par sa nature, ne peut absolument pas participer à cette concurrence, à cette compétition économique effrénée, et qu'elle sera toujours la perdante, de toute façon, parce qu'elle est soumise à de toutes d'autres lois, alors à partir de ce moment-là, je ne sais pas la fin de la phrase, excusez-moi, mais en tout cas, je vois qu'il faut considérer l'agriculture de manière toute nouvelle, hein, différente.
Excuse-moi si c'est trop long.
Kein Problem.
Aber es ist ich mache mir nicht. Ich kann kürzer. Also, die Landwirtschaft kann an diesem Rennen gar nicht teilnehmen. Und das heißt, in der Konsequenz müssten im Vergleich mit allen anderen wirtschaftlichen Produkten heute, die landwirtschaftlichen Produkte jedes Jahr ein Stück teurer werden.
C'est-à-dire que dans la mesure où l'agriculture ne peut pas participer à cette compétition, en fait la conséquence réelle, ça serait que chaque année les produits agricoles devraient devenir un peu plus chers par rapport aux autres produits, puisque tous les autres baissent de prix.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir überhaupt zu einem angemessenen Preis für landwirtschaftliche Produkte? Worauf müssen wir dabei schauen?
Et là se pose la question, comment pouvons-nous arriver à un prix juste pour les produits agricoles? Et pour constituer ce prix juste, où faut-il regarder? Que faut-il regarder?
Denn wenn ich nur auf den Vergleich mit anderen Produkten im Regal heutiger Supermärkte oder Kaufhäuser schaue, dann werde ich nie den richtigen Preis finden.
Parce que si je me contente de comparer les produits agricoles avec les autres produits qu'on peut trouver sur les rayons des supermarchés, en fait, je n'arriverai jamais à trouver le juste prix pour les produits agricoles.
Das heißt, eigentlich verlangt die Landwirtschaft von uns eine Blickwendung.
Ça veut dire qu'en fait, l'agriculture demande que nous changeons notre regard d'orientation pour la comprendre elle-même.
Nicht primär auf das Produkt und seinen Marktwert zu schauen, sondern primär auf den Zusammenhang, den das Produkt erst hervorbringt.
Ça veut dire qu'il ne faut pas que je regarde d'abord la valeur marchande du produit agricole, mais que je regarde d'abord le contexte, l'ensemble dans lequel le produit va être élaboré.
Und das heißt, vor allem auf die Menschen zu schauen, die in der Landwirtschaft arbeiten.
Et ça veut dire essentiellement d'abord de regarder les personnes qui travaillent dans l'agriculture.
Was brauchen diese Menschen, diese unglaublich wertvolle, wichtige Arbeit machen zu können?
C'est-à-dire de quoi ont besoin les paysans, donc les paysannes, les personnes qui travaillent dans l'agriculture pour faire ce travail si important et si beau en fait.
Ich würde an der Stelle gerne einen Schritt weitergehen, jetzt ein bisschen schon von der Landwirtschaft weg.
À partir de maintenant, j'aimerais aller me déplacer plus loin, quitter un petit peu l'agriculture.
Ich behaupte nämlich ganz generell, ist es nicht möglich, heute den Anteil eines einzelnen Menschen an der Erstellung eines typischen Produktes und damit den gerechten Lohn für seine Tätigkeit zu erreichen.
Es ist nicht möglich.
Es ist nicht möglich. Ja.
Oui, donc j'affirme qu'en fait, il n'est pas possible hein, aujourd'hui de calculer vraiment la participation d'une personne précise à l'élaboration d'un produit. Pour pouvoir lui donner la juste rémunération correspondant à sa participation à l'élaboration d'un produit.
C'est clair. Wir leben in Bezug auf zentrale ökonomische Fragen in absoluten Illusionen.
Du point de vue des questions fondamentales de l'économie, nous vivons dans des illusions totales. Nous sommes à côté de la salle, on peut dire.
Das hat damit zu tun, dass die die Grundlagen unseres ökologischen Systems etwa 150 bis 200 Jahre alt sind.
Ça, c'est lié au fait que les fondements de notre système économique ont 150 à 200 ans, ils sont mi-date.
Dass sie aufbauen auf einer Idee, die damals sehr populär war.
Ils sont basés sur une idée très populaire à l'époque.
Das war die Idee, die als erstes von Adam Smith formuliert worden ist.
Cette idée qui a été formulée pour la première fois par Adam Smith.
Und die ich jetzt mit meinen Worten etwas verkürzt so formuliere.
Que je décris ainsi, de manière un peu raccourcie avec mes mots.
Das Wohl einer Gemeinschaft von Menschen ist umso größer, je mehr jeder Einzelne immer nur seinen eigenen Nutzen im Auge hat.
Le bien-être d'une communauté de personnes ou d'un groupe de personnes sera d'autant meilleur que chacun ne cherche qu'à répondre à ses propres besoins, à penser seulement à lui en fait.
Diese Idee, dass jeder immer an sich denkt und seinen eigenen Egoismus fördert und dadurch sozusagen das größtmögliche Heil für alle entsteht, sie ist die Grundlage unseres heutigen ökonomischen Systems.
Cette idée, hein, que en fait, si chacun reste dans son égoïsme personnel, ne pense qu'à ses propres besoins, ça permettra d'avoir le meilleur bien-être pour toute la collectivité. C'est quelque chose qui reste aujourd'hui complètement le fondement de toute notre vie économique.
Dementsprechend meinen wir auch immer, zum Beispiel, wenn uns jemand fragt, wofür arbeitest du?
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on pense toujours quand quelqu'un nous demande mais pourquoi tu travailles?
Et dann sagt man ja. Natürlich, ich arbeite für mich, ich arbeite für mein Einkommen, für mein Haus, für mein Auto, für meine Rente.
On répond toujours, je travaille pour moi, bien sûr. Je travaille pour avoir un salaire, je travaille pour payer ma maison, je travaille pour avoir une retraite, je travaille pour moi, quoi.
Und man merkt gar nicht, dass das in Wahrheit nicht stimmt.
Et on constate pas qu'en fait, c'est tout à fait faux.
Denn was tun wir, wenn wir arbeiten?
Parce que faisons-nous quand nous travaillons?
Der Bauer, der viele Zentner Weizen erntet, verbraucht die nicht selbst.
Le paysan qui récolte des quintaux et des quintaux de blé ne les utilise absolument pas pour lui-même.
Er pflanzt und erntet sie für andere Menschen.
Il les sème, il les cultive, il les récolte pour d'autres personnes, bien sûr.
Der Bäcker, der 900 Brötchen am Morgen oder in der Nacht backt, backt sie nicht für sich selbst.
De même, le boulanger qui fait 900 petits pains le matin, très tôt, dans la nuit, ben, il ne fait pas jamais pour lui.
Wenn er das alles versuchen würde, selbst zu essen, würde es nicht gut gekommen.
S'il essayait de tout manger lui-même, ça ne serait pas fantastique.
Er bäckt sie für andere Menschen.
Il fait bien sûr pour d'autres personnes.
Und dass er Kleider hat, die er anziehen kann, ein Haus, in dem er wohnt, einen Tresen, einen Verkaufstisch, an dem er seine Brötchen verkaufen kann, das ist nicht, weil er das gemacht hat, sondern das haben andere Menschen für ihn gemacht.
Et le fait qu'il puisse acheter des vêtements, qu'il ait un comptoir, qu'il ait une boutique, etc., c'est pas lui qui l'a fait, c'est d'autres personnes qui ont fait tout ça pour lui, en fait.
Das heißt, in Wahrheit arbeiten wir niemals für uns, sondern wir arbeiten immer für andere Menschen.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment réaliser qu'en réalité, on ne travaille jamais pour nous-mêmes, on travaille toujours pour d'autres personnes.
Das heißt, der Kern des Arbeitens ist Altruismus, ist Liebe, ist, dass ich etwas tue, wovon ich weiß, dass andere Menschen das brauchen.
C'est-à-dire qu'en fait, le fondement du travail, c'est l'altruisme, c'est même de l'amour de l'autre, c'est que je produis des choses parce que je sais que d'autres personnes en ont besoin. C'est ça, fondamentalement, l'origine du travail.
Und ganz ähnlich ist das mit dem Einkommen.
Et il en va de même avec le salaire.
Was ist das angemessene, das gerechte Einkommen für eine Tätigkeit?
Quel est le juste salaire pour une activité particulière? Pour une activité précise.
Und wie errechnet sich das?
Et comment on calcule ça?
Von wer bestimmt das?
Qui décide quel est le juste salaire?
Wir haben heute Menschen, die wirklich hart arbeiten, jeden Tag, und trotzdem von ihrem Einkommen nicht angemessen leben können.
Il y a des gens qui travaillent chaque jour très durement et qui n'arrivent pas cependant à vivre de leur salaire.
Und wir haben gleichzeitig Menschen, die nichts tun und jeden Tag reicher werden.
Et en même temps, on a des gens qui font rien du tout et qui s'enrichissent tous les jours.
Und wir haben eine Entwicklung, in der seit 20 Jahren Arm und Reich immer weiter auseinandergehen.
Et nous avons une évolution ces 20 dernières années hein, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'accroît chaque année.
Wir haben in unseren Ländern, in der Mitte Europas, wieder Menschen, die wirklich richtig arm sind, obwohl das schon mal überwunden schien.
Nous avons des gens aujourd'hui au cœur de l'Europe, hein, dans une zone où on pensait qu'on avait surmonté la pauvreté, la grande pauvreté. On a à nouveau des gens aujourd'hui qui vivent vraiment dans une très grande pauvreté.
Wir haben gleichzeitig Menschen, die obszön reich sind und wo uns jede Fantasie fehlt, was man mit so viel Geld Sinnvolles machen könnte.
Et de l'autre côté, on a des gens qui sont riches de manière totalement obscène, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus du tout s'imaginer que faire avec tant d'argent.
In der Entwicklung ist es so, dass die Menschen, die gewissermaßen von dem Lohn für ihre Arbeit leben, im Verhältnis immer weniger bekommen und die, die von der Anlage ihres Vermögens leben, also nicht selbst etwas tun, sondern wo das Geld arbeitet, immer reicher werden, immer mehr bekommen.
Et le problème, c'est que l'évolution va dans la direction suivante, que les gens qui travaillent, qui gagnent leur revenu à partir de leur travail, en fait, ont tendance à être de moins en moins riches, et que ceux qui vivent et qui gagnent de l'argent simplement avec le placement de leur argent, ceux-là s'enrichissent toujours plus. Cet écart aussi s'accroît.
Ich glaube, dass es heute nicht mehr reicht, nur für zum Beispiel eine kleine Verbesserung in der Agrarpolitik und ein bisschen einen etwas besseren Milchpreis zu kämpfen.
Je crois que ça ne suffit plus du tout aujourd'hui de se battre comme le font les paysans, certains paysans actuellement, pour avoir une politique agricole un peu meilleure ou pour avoir un prix du lait un petit peu plus élevé.
Auch wenn das sicher sinnvoll ist.
Même si c'est censé d'avoir un meilleur
prix. Ich glaube, dass wir in eine Zeit eintreten, in der alle tragenden Begriffe unseres heutigen wirtschaftlichen Systems brüchig werden.
Je pense que nous vivons une époque où en fait tous les concepts fondamentaux de notre économie sont en train de se décomposer, ne tiennent plus du tout la route.
Wir hatten vor kurzem eine Umfrage in Deutschland, wo die Menschen gefragt wurden, ob sie mit dem ökonomischen System, mit der Wirtschaftsordnung, in der wir leben, einverstanden sind, oder ob sie eine andere Wirtschaftsordnung wollen.
Il y a eu récemment une enquête qui a été faite en Allemagne. On a demandé aux personnes êtes-vous content, satisfait du système économique actuel ou souhaitez-vous un autre système économique ?
Was niemand erwartet hat und viele, gerade auch unsere Politiker, wirklich erschüttert hat, ist, 90% der Menschen in Deutschland sagen, wir brauchen eine andere Wirtschaftsordnung.
Et la réponse était impressionnante, et les politiciens ne s'étaient pas attendus à ça. La réponse était 90% des gens demandent un autre système économique.
Diese Wirtschaftsordnung ist nicht nachhaltig, sie ist nicht gerecht, sie ist nicht fair, sie zerstört auf Dauer die Gesellschaft und die Umwelt.
Système économique actuel, cet ordre économique actuel est à la fois pas du tout fair, c'est pas du tout juste, n'est pas du tout non plus soutenable à terme et détruit complètement notre base de vie.
Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der innerlich die Menschen längst weiter sind, längst etwas anderes suchen.
C'est-à-dire que nous sommes à une époque où, en fait, intérieurement, la plupart des gens sont déjà beaucoup plus loin que la réalité économique dans laquelle ils vivent. Ils aspirent à quelque chose de.
Eine gerechtere, eine ganzheitlichere Form von Wirtschaft.
Ils aspirent à une forme plus juste et une forme beaucoup plus globale d'économie que celle qu'ils ont actuellement.
Une forme von Wirtschaft, die mehr das füreinander tätig sein, das einander dienen, als das aneinander verdienen in den Mittelpunkt stellt.
Une économie dans laquelle on est beaucoup plus au service de l'autre plutôt que d'essayer de gagner des choses de l'autre pour soi.
Und während die Menschen das empfinden und eigentlich längst auf der Suche danach sind.
Et alors que beaucoup de gens ressentent ça et sont depuis longtemps à la recherche d'un autre ordre économique, d'un autre système économique.
Drückt oder greift gleichzeitig dieser kalte, rechenhafte Geist, der unser Wirtschaftsleben bestimmt, immer tiefer in alle Lebensbereiche ein.
Et en même temps, hein, on a cet esprit qui enfonce ses griffes, on va dire, hein, ces esprits calculateurs qui cherchent l'efficience permanente, qui pénètrent toujours plus profondément dans notre économie actuelle, en fait.
Es gibt eigentlich keinen Menschen mehr, der sich diesem Geist entziehen kann.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui peut se soustraire à l'impact de cet esprit calculateur, froid calculateur.
Je vous donne un exemple. Früher wurde ein Arzt im Krankenhaus bezahlt und hatte und sah es als seine Aufgabe, jeden Tag dafür da zu sein, seine Patienten gesund zu machen.
Jadis, je vous donne un exemple. Jadis, un médecin dans une clinique qui voyait, qui considérait sa tâche, sa fonction, de venir tous les jours à l'hôpital pour s'assurer que les patients deviennent en bonne santé, évidemment.
Heute ist ein Arzt immer noch ein Arzt, aber gleichzeitig muss sich verstehen als eine Art Profitcenter.
Was heißt das?
Profitcenter, das heißt als eine profitable ökologische.
Ah, okay. Ah oui, aujourd'hui, un médecin reste un médecin, mais en même temps, il faut qu'il se considère comme une unité économique qui fait du profit.
Das heißt, Krankenhäuser werden in Deutschland heute nach Fallpauschalen bezahlt.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux en Allemagne, par exemple, on a un forfait par type de maladie. Quoi.
Das heißt, bei jedem Patienten, der kommt, weiß ich, dieser Patient bringt mir 1250 Euro, dieser Patient bringt mir 3000 Euro, dieser Patient nur 800.
C'est-à-dire que je sais, en tant que médecin ou gestionnaire de la clinique, tel patient va m'amener 1200 euros, tel patient va m'en apporter 800, le tel va m'apporter 3000, donc chaque patient pèse un certain poids économique.
Gleichzeitig weiß ein erfahrener Arzt, dass bei vielen Patienten die Behandlung vielleicht mit weniger Aufwand schafft, aber dass es andere, vor allem ältere Patienten gibt, wo es länger dauert und wo es mehr kosten wird.
Et de l'autre côté, évidemment, chaque médecin un petit peu expérimenté sait que ça ne fonctionne pas du tout, ces forfaits, puisqu'il y a certains patients qui seront soignés beaucoup plus rapidement, pour moins cher, pour ainsi dire, et d'autres patients peut-être plus âgés, pour qui il faudra beaucoup plus de dépenses, évidemment, pour arriver à les guérir.
Aber er ist nicht mehr frei, sondern die finanziellen, kalkulatorischen Überlegungen mischen sich ständig in das Verhältnis, in den Kontakt zu dem Patienten mit rein.
Il n'est plus libre, et même dans sa tête, c'est-à-dire qu'en permanence, ses calculs, hein, ses forfaits sont là dans sa manière d'agir, sont présents dans son esprit, en fait, pour dicter aussi sa manière d'agir.
Es gibt ein Krankenhaus in Deutschland, das als Forschungs-, als Musterkrankenhaus diese moderne Form der Bezahlung experimentell erforscht hat.
Il y a un hôpital en Allemagne, ou un hôpital modèle, n'est-ce pas, dans lequel on expérimente une nouvelle forme de financement, en fait, de l'hôpital.
Da steht an jedem Bett ein Computerterminal, also eine Tastatur.
Au pied de chaque lit, il y a un ordinateur avec un clavier.
Und über dem Bett ein Bildschirm.
Et puis un écran au-dessus du lit, du patient.
Und bei jeder Handlung, die ein Arzt oder eine Pflegekraft macht, wird das eingetippt in das Computerterminal.
Et chaque action que fait l'infirmière ou que fait le médecin est enregistrée en fait par l'ordinateur et va apparaître sur l'écran. Chaque acte médical qui va être fait.
Also Fieber gemessen 21 Euro.
Donc voilà, mesurer la température 21 euros. Pouf, ça apparaît sur l'écran.
Gefragt, wie es heute geht, 30 Euro.
Demandez comment ça va aujourd'hui, 30 euros.
Und oben auf dem Bildschirm steht immer der Preis, den dieser Patient maximal kosten darf.
Et en haut de l'écran, il y a le prix maximum que peut atteindre le patient. La somme maximale à dépenser pour le patient.
C'est une grüne Zahl. Und wenn es teurer wird, dann fängt die Zahl an zu blinken und wird rot.
Et c'est un chiffre qui est en vert. Et quand il y a trop d'actes médicaux et que ça dépasse le forfait prévu, ça commence à se mettre à clignoter en rouge.
Und wenn es zu teuer wird, dann zahlt das Krankenhaus drauf, verliert Geld jeden Tag.
Et si ça devient trop cher, l'hôpital perd de l'argent chaque jour.
Und ich weiß, das Beispiel, das ich erzählt habe, ist extrem.
Je sais bien sûr que c'est un exemple extrême.
Ah ben, die Realität ist heute auch extrem. Das ist genau so.
Mais la réalité aujourd'hui est aussi extrême. Hein? On est dans la même situation en fait.
Über das Sie den Ordinateur nicht sehen.
Simplement, vous ne voyez pas cet ordinateur hein, sur lequel on enregistre les choses.
Noch nie wurden so viele Patienten aus Krankenhäusern entlassen, viel zu früh, ungeheilt, mit blutenden, messenden Wunden, einfach weil es sich nicht mehr rechnet.
On n'a jamais eu autant de personnes qui ont dû quitter l'hôpital alors qu'ils n'étaient pas totalement soignés, hein, qu'ils avaient peut-être même encore des blessures pas totalement refermées, etc. Ça n'a jamais été à ce point-là. Hein.
Die Frage ist, wie viel wollen wir, wie viel von unserem Leben und Arbeiten wollen wir diesem Geist ausliefern?
La question qui se pose à nous maintenant, c'est vraiment combien de notre vie et de notre activité, de notre travail voulons-nous donner à cet esprit, ce froid esprit calculateur?
Wir haben gesagt, die Menschen, die große Mehrheit der Menschen ist längst auf der Suche nach etwas anderem.
Vous avez dit depuis longtemps, la grande majorité des êtres humains sont sur à la recherche de quelque chose d'autre.
Und gleichzeitig wird versucht, zum Beispiel durch TTIP, die Transatlantic Trade and Investment Partnership, der Politik und damit auch der Bevölkerung die Freiheit zu nehmen, ökonomisch noch andere Entscheidungen zu treffen als solche.
Et en même temps, par des actions comme le traité là, qui est en discussion, hein, le TAFTA, traité transatlantique, on est en train d'essayer de mettre en place des systèmes qui vont empêcher, enlever aux citoyens toute possibilité de développer une autre économie, en fait.
Wenn es einmal so weit ist, dass demokratisch gewählte Gemeinwesen, demokratisch gewählte Volksvertreter verklagt werden können von multinationalen Konzernen, weil diese Konzerne sagen, die Gesetze, die ihr beschließt, schaden unseren Interessen, dann ist die Demokratie am Ende.
Là, c'est très grave, parce qu'à partir du moment, comme c'est prévu dans le TAFTA, où les entreprises, les multinationales peuvent amener devant le tribunal, les tribunaux privés en plus, des élus, par exemple, hein, des personnalités politiques qui ont décidé une loi, et l'entreprise, la multinationale, dirait oui, mais cette loi nous empêche, nos multinationales, de vendre tel et tel produit. Quand on arrive à ça, alors on a vraiment perdu totalement toute démocratie.
Das wissen, wir haben ja in Deutschland nach der Katastrophe von Fukushima beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen.
Wir weiter nicht. Wir weiter nicht. Je ne sais pas si vous savez, en Allemagne, après la catastrophe de Fukushima, donc l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, hein, totalement. Il dit ça volontairement parce qu'il sait que Fessenheim est à côté et que nous, en France, on est loin d'avoir fait ça.
Aber was passiert ist, wir haben vier große Stromkonzerne.
Nous avons quatre grosses entreprises de productrices d'énergie en Allemagne.
Drei davon haben ihren Sitz in Deutschland.
Trois d'entre elles ont leur siège social en Allemagne.
Eine wurde verkauft nach Schweden an Vattenfall.
Et l'une d'entre elles a été vendue à Vattenfall, une entreprise suédoise.
Vattenfall hat jetzt Deutschland verklagt.
Et Vattenfall a attaqué l'État allemand.
Und zwar verlangt Vattenfall 4,7 Milliarden Euro.
Et Vattenfall demande 4 milliards 7 à l'État allemand de dédommagement.
An entgangenen möglichen zukünftigen Profitmargen.
Pour des profits qu'ils auraient pu obtenir à l'avenir et qu'ils n'auront plus à cause de la sortie du nucléaire.
Wenn alle Stromkonzerne bei uns klagen könnten, dann beliefe sich die Klage auf mehr als 20 Milliarden.
Et si toutes les entreprises productrices d'énergie faisaient le même type de démarche, demandaient donc des dommages et intérêts pour des pertes sur ce qu'ils auraient pu gagner à l'avenir, on aurait 20 milliards à payer, quoi. L'État allemand aurait 20 milliards à payer aux entreprises.
Aber diese demokratisch hochkriminellen Abkommen privilegieren multinationale Konzerne und schwächen die Interessen der im eigenen Land befindlichen.
C'est-à-dire que ces traités, hein, on peut dire vraiment criminels, hein, vont donner l'avantage aux multinationales et vont affaiblir totalement les intérêts des citoyens, les intérêts du pays, de chaque pays.
Das heißt, nur Vattenfall kann klagen, weil nur Vattenfall keine deutsche Firma ist, sondern den Sitz im Ausland.
Et vous comprenez, Vattenfall est seul à pouvoir, déposer plainte parce qu'elle n'a pas son siège en Allemagne, alors que les autres ont leur siège en Allemagne, donc elles ne peuvent pas déposer plainte contre l'État dans lequel elles se trouvent.
Und entschieden wird dieses Verfahren nicht vor einem deutschen Gericht.
Et le comble, c'est que ce procès n'a pas lieu devant un tribunal allemand,
sondern vor einem privaten Gericht in Washington.
Mais devant un tribunal privé à Washington.
Und privat heißt, da sitzt kein ausgebildeter Richter.
Privé, ça veut dire qu'il n'y a pas de juge formé.
Sondern da sitzen Vertreter sogenannter multinationaler law firms.
Ah oui, donc non, à la place, c'est des représentants de multinationales, en fait.
Die auf solche Verfahren spezialisiert sind.
Qui sont spécialisés pour ce type de procès.
Und es sind interessanterweise die gleichen Firmen, die Unternehmen beraten, zum Beispiel wenn es um den Kauf oder Zusammenschluss von Unternehmen geht, die jetzt als Schiedsrichter entscheiden, ob das Unternehmen das Geld bekommt und der Staat bezahlen muss.
Donc ce n'est pas des représentants des multinationales, c'est des représentants d'avocats internationaux qui sont par contre aussi engagés chaque fois qu'il faut décider de la vente d'une entreprise ou pas. Donc c'est eux qui décident la vente d'entreprise et c'est eux aussi qui décident, qui jugent en fait de tel, dans le cas de tel procès, dans ce genre de tribunaux privés.
Le schlimm ist ja nicht nur die Gefahr, dass Deutschland, das heißt die Bürger, die Steuerzahler, tatsächlich diese riesige Summe bezahlen müssen.
Le pire, c'est pas seulement que tous les citoyens allemands doivent payer ces sommes ou devraient payer ces sommes terribles.
Sondern viel schlimmer ist, dass sie zukünftig als Gesetzgeber nicht mehr frei sind, zu entscheiden.
Mais bien pire, c'est que en fait, les citoyens et les hommes politiques ne sont plus du tout libres à l'avenir de décider de ce qui se passe dans leur pays, en fait.
Weil wenn sie gegen die Interessen von Konzernen entscheiden, die sie immer sie verklagen können auf Schadensersatz.
Parce que dès qu'ils prennent des lois qui vont à l'encontre des intérêts privés des grosses multinationales, il y a toujours le risque de se trouver porté devant un tribunal par la multinationale en question.
Also, sie wollen bessere Umweltgesetze machen, sie müssen Schadensersatz zahlen. Sie wollen bessere Sozialgesetze machen, sie müssen Schadensersatz zahlen. Sie wollen das für die Kultur tun, sie müssen Schadensersatz zahlen.
Vous voulez par exemple améliorer la qualité de l'environnement, donc limiter les droits de rejeter des polluants, je ne sais pas quoi, vous allez devoir payer des dommages et intérêts. Vous voulez améliorer les conditions sociales des travailleurs, oui, mais ça va augmenter les dépenses pour l'entreprise, donc vous allez devoir payer des dommages et intérêts, etc. etc.
Und Sie sehen deutlich, beides existiert parallel gleichzeitig.
Et vous voyez bien, on a ces deux aspects, deux facettes qui sont en parallèle, qui existent en même temps, hein, deux aspects de la médaille.
Dieser Versuch, alles sozusagen in die Krallen eines ganz bestimmten ökonomischen Geistes zu bekommen.
Donc laisser, enfin la tentative pour tout soumettre, on va dire, à l'emprise d'un esprit économique très étroit, hein, d'un côté.
Und zugleich die Entwicklung, dass nämlich immer mehr Menschen in unserem Land, in Europa und auf dem Globus sagen, wir brauchen eine fairere, eine gerechtere, eine nachhaltigere Form der Wirtschaft.
Et de l'autre côté, l'aspiration de toujours plus de personnes à avoir une économie plus solidaire, plus juste et plus, avec plus de partage.
Ich glaube, eine entscheidende Konsequenz daraus ist, dass wir begreifen, dass wir die Verantwortung für solche Fragen heute nicht mehr einfach anderen überlassen dürfen.
Et je crois qu'en fait, une des conséquences principales de ça, c'est le fait que nous devons comprendre que nous ne pouvons plus laisser la responsabilité de prendre des décisions concernant la vie économique à d'autres.
Sondern dass wir uns einmischen müssen.
Nous devons nous en mêler, nous devons prendre notre part, nous devons participer.
Alors, das zum Beispiel, was ich Ihnen eben über TTIP erzählt habe, wissen wir nur durch NGOs, durch zivilgesellschaftliche Organisationen, die nicht aus Profitinteresse, sondern aus idealistischen Gründen an diesen Fragen bearbeiten und die Informationen herausfinden und die Öffentlichkeit damit versorgen.
Par exemple, tout ce qu'on sait sur le TAFTA, hein, le traité transatlantique, bah, on ne le sait pas du tout par les multinationales ni par les politiques, on le sait simplement par des groupements de citoyens, hein, des ONG qui cherchent les informations, hein, et qui les transmettent à toute la population. En fait.
Wir leben in einer Zeit, wo man als Zeitgenosse, als Bürger, egal was man beruflich tut, mitverantwortlich ist für das Zeitenschicksal.
On vit à une époque où, en fait, en tant que citoyen, hein, chacun, quel que soit notre métier, notre activité, on est co-responsable de ce qui se passe vraiment aujourd'hui dans la société.
Vorhin gesagt, die tragenden Begriffe unseres heutigen ökonomischen Systems sind brüchig geworden.
J'ai dit avant, hein, tous les fondamentaux de notre économie sont devenus vraiment très, ne tiennent plus, en fait.
Mit dem Begriff der Arbeit haben wir schon geredet.
Nous avons déjà parlé du concept de travail qu'il faut revoir totalement.
Le Begriff des Kapitals ist völlig, wie soll man sagen, revisionsbedürftig.
Le concept du, la notion de capital, le concept de capital, il faudrait aussi complètement le revoir, hein, fondamentalement.
Kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht ausführen.
On ne peut pas le développer maintenant pour des raisons de temps, ça prendrait du temps.
Le Begriff des Eigentums ist dringend reformbedürftig.
Le concept de propriété, propriété privée, a besoin aussi d'être totalement revu.
So ein Gerät oder so ein Stift oder eine Uhr kann Eigentum sein, das hat jemand hergestellt, das kann ich kaufen, das kann ich mit mir tragen.
Un objet comme ça, un stylo ou un téléphone, ça peut être une propriété privée, hein. C'est quelque chose qui a été fabriqué, je peux l'acheter, l'approprier, je peux l'avoir pour moi, une propriété.
Aber schon den Boden kann ich nicht mit mir tragen, den hat auch keiner hergestellt.
Mais déjà le sol, hein, donc le foncier, je ne peux pas le porter avec moi, je ne peux pas le transporter avec moi. Et personne ne l'a produit, personne ne l'a fabriqué. Das,
diese abstrakte Vorstellung, Eigentum, wie wir sie heute pflegen, überhaupt nicht angemessen.
Et ce concept totalement abstrait de propriété privée n'est absolument pas adapté au foncier, par exemple, à la terre. La terre ne peut pas être une propriété
privée. Abstrakt meine ich, wo das Eigentum an Boden Spekulationsobjekt wird und nichts mehr zu tun hat mit der konkreten Nutzung dieses Bodens.
Et je dis propriété privée abstraite à propos du sol, à partir du moment où le sol ne sert plus à être utilisé, mais où il devient un objet de spéculation. Sur lequel on peut spéculer simplement.
Während wir hier sitzen, findet weltweit das große Rennen statt, sozusagen die letzten Flächen zu kaufen. Ich nehme nur als Beispiel die Ukraine, wo nach der sogenannten Revolution 45% des landwirtschaftlichen Grundes von der amerikanischen Firma Monsanto gekauft wurde.
Et en ce moment, hein, pendant qu'on parle, hein, les derniers morceaux de terre, les dernières parcelles de terre agricole qui sont à vendre sur le globe sont en train d'être vendues. Par exemple, en Ukraine, après la chute de l'URSS, Monsanto a acheté 45% de la surface agricole de l'Ukraine.
Was heißt das für die Landwirtschaft, wenn sie nicht mehr die Möglichkeit haben, Grund zu erwerben, weil sie nicht mithalten können mit diesen weltweit agierenden Fonds und Konzernen.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les agriculteurs, hein, s'ils n'ont plus du tout la possibilité d'acheter de la terre parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas payer le prix suffisant pour acheter un morceau de terre, dans la mesure où les multinationales ont payé beaucoup plus, hein, ont été capables d'investir dans la terre et ont fait monter les prix.
Ich kann das jetzt heute aus Zeitgründen nur andeuten, aber zum Beispiel eine noch viel größere Frage ist die Frage, wem gehört eigentlich das, was unter der Erde ist oder in der Luft oder im Wasser?
Et je veux simplement un petit peu esquisser ça aujourd'hui. Hein. Une question encore beaucoup plus importante, c'est à qui appartient ce qu'on trouve sous terre, donc dans les mines, hein, les ressources minières et autres, l'eau ou l'air, à qui ça appartient tout ça?
Eine große Zahl der Kriege der letzten Jahrzehnte verstehen Sie sehr viel besser, wenn Sie den Zusammenhang mit dem Zugriff auf Rohstoffe, auf Öl, auf Gas und so weiter ins Auge fassen.
Vous comprendrez beaucoup plus facilement la plupart des guerres récentes si vous faites le lien avec l'accaparement ou le souhait de s'accaparer des ressources telles que le pétrole, telles que des ressources, des minerais, etc., du gaz ou des minerais.
Auch ein Teil des Reichtums und der Armut und der politisch extrem schwierigen Entwicklung im arabischen Raum und am Golf.
C'est aussi une des raisons principales hein, de la richesse d'un côté ou de la pauvreté, des difficultés politiques dans tout la zone du Golfe arabe, hein, de la péninsule arabe.
Das heißt, es ist nötig, dass wir über all diese Fragen neu sprechen und zum Beispiel die Frage stellen, was kann überhaupt Eigentum sein und was nicht.
Ça veut dire qu'il est absolument indispensable que nous puissions parler à nouveau de ces sujets, que nous puissions en débattre et par exemple, quelles objets peuvent être vraiment propriété privée et quels autres non.
Und wem gehört das, was keiner erzeugt, keiner hergestellt, keiner gemacht hat, sondern was wir finden auf dieser Erde?
Et par exemple, à qui appartient ce qui n'a pas été produit par l'être humain, mais qu'on trouve en venant sur Terre, tout simplement, la Terre, l'air, etc.
Wie wäre es, wenn wir neue Formen des Eigentums entwickeln würden, die eben nicht Privateigentum sind, in der Weise, dass man spekulieren kann, kaufen, verkaufen kann, sondern die in den Mittelpunkt stellen, die Art und Weise, wie dieses Eigentum, also zum Beispiel der Boden, für die Allgemeinheit genutzt wird.
Comment pourrions-nous imaginer des formes de propriété collective, c'est-à-dire qui ne serait plus une propriété privée du foncier, par exemple, mais une propriété collective qui mette à disposition de ceux qui ont besoin de la terre, du foncier, cette terre, tout en appartenant à une collectivité.
Wo vielleicht dann gar nicht mehr der meist zahlende, sondern eher mit der besten Form der Nutzung das Eigentum zugesprochen bekommt.
Et ça serait peut-être pas dans ce cas-là celui qui paierait le plus cher, qui acquérerait la propriété de la terre, mais celui qui proposerait l'utilisation la plus socialement la plus intéressante ou collectivement la plus intéressante.
Über Jahrzehnte hat uns die Ökonomie, wie sie an den Hochschulen gelehrt wird, erzählt, es gäbe eine sogenannte Tragik der Allmende.
Pendant des décennies, hein, dans les écoles d'économie, on a vraiment appris qu'il y avait une tragédie du bien commun.
Tragik der Allmende heißt überall da, wo etwas nicht Privateigentum ist und keinem bestimmten gehört, überall da wird es nicht sinnvoll genutzt.
C'est-à-dire qu'on nous a raconté partout, dans toutes les écoles d'économie, que là où quelque chose n'est pas propriété privée, mais une propriété commune, alors ça n'est pas utilisé de manière sensée et raisonnable. C'est pas bien géré, quoi.
Das große Glück ist, dass wir in der Ökonomie seit einigen Jahren eine völlig neue Entwicklung haben.
La chance, c'est que nous découvrons une toute nouvelle évolution dans l'économie depuis quelques années.
Dass es nämlich inzwischen immer mehr Ökonomen gibt, die nicht abstrakte Behauptungen aufstellen, sondern die einfach gucken, wie ist denn die Wirklichkeit.
Cette chance, c'est que de plus en plus d'économistes ne proposent plus simplement des idées abstraites, mais font des observations précises de la réalité, font des enquêtes et regardent comment les choses se passent en réalité.
Es gibt eine Ökonomin, die das seit Jahrzehnten schon gemacht hat, also eine Vorläuferin dieser neuen Bewegung war, das ist Elinor Ostrom.
Il y a une économiste qui a fait ça depuis longtemps, depuis des décennies, hein, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel. Hein.
Und sie hat die Frage beschäftigt, stimmt das überhaupt mit der Tragik der Allmende?
Et elle a simplement posé la question, mais est-ce que c'est vrai cette affirmation permanente que tout bien commun doit être malgré le pays malgré
le pays?
Et le résultat de ces recherches sur 40 ans, hein, et partout de par le monde, à propos des biens communs,
dass überall da, wo es um Umweltgüter oder um öffentliche Güter oder um Infrastruktur geht, also nicht sowas, was ich hier wegtragen kann, sondern etwas, was alle brauchen und alle nutzen.
Le résultat, c'est que partout où il s'agit de biens communs touchant l'environnement, touchant les infrastructures, donc ne touchant pas des biens, des marchandises que je peux transporter, que je peux m'approprier véritablement, mais des biens communs tels que, effectivement, les
infrastructures.
Elle montre que dans tous ces domaines, en fait, la propriété privée est la plus mauvaise solution.
Und formen gemeinsamer Verwaltung sehr viel sinnvoll.
Et que la gestion collective est en général beaucoup plus cohérente, beaucoup plus sensible.
Und ich freue mich überaus darüber, dass Elinor Ostrom für ihre Forschung den Nobelpreis bekommen hat.
Ich me réjouis vraiment beaucoup que Elinor Ostrom ait reçu le prix Nobel pour toute cette recherche.
Es ist die erste Frau überhaupt, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat.
Et c'est en plus la première femme qui a eu un prix Nobel d'économie.
Und es zeigt ein bisschen einen Paradigmenwechsel, den wir heute zunehmend auch in der Theorie finden.
Et ça montre aussi hein, vraiment un changement de paradigme que nous trouvons, qui apparaît toujours plus aussi dans le monde de la recherche théorique, dans le monde de l'économie.
Das heißt, überall auf der Welt heute sprechen die Menschen und forschen die Menschen darüber, wie kann man mit den Commons, also mit dem, was Grundlage unseres Lebens ist, in richtiger Weise umgehen.
C'est-à-dire que maintenant, un peu partout sur Terre, il y a des gens qui cherchent vraiment comment on peut travailler de manière juste, gérer de manière juste les biens communs, ce qu'on appelle les commons en anglais.
Und überall bilden sich Einheiten, Zusammenhänge von Menschen, die das in kleinen schon versuchen.
Et partout se forment des groupes, des collectivités de personnes qui essayent ça à petite échelle.
Zum Beispiel Boden freikaufen aus der privaten Verfügung zur Verfügung stellen für sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung.
Par exemple, acheter de la terre, acheter du foncier, le mettre à disposition pour une agriculture écologique.
Oder wo viele Menschen gemeinsam einen Bauernhof tragen.
Ou des systèmes comme les AMAP, hein, ou des communautés autour de fermes, c'est-à-dire une collectivité de personnes qui achètent ensemble une ferme, un domaine agricole.
Oder die Entwicklung von Regionalwährungen.
Ou le développement d'économies de monnaie régionale, de monnaie locale.
Alles das gehört damit rein, noch vieles mehr.
Tout ça fait partie de ce mouvement général, et il y a beaucoup d'autres initiatives en cours.
Aber zugleich müssen wir sagen, so großartig das ist, es sind Inseln.
Mais on est obligé de dire en même temps, même si tout ça est vraiment important, ce ne reste que de petites îles.
Diese Inseln müssen natürlich wachsen und mehr werden.
Ces îles doivent bien sûr grandir, il faut que leur nombre augmente.
Aber gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, den Schleier zu zerreißen, der zwischen uns und der ökonomischen Wirklichkeit steht.
Et en même temps, de l'autre côté, il faut vraiment commencer à déchirer le rideau qui est entre nous et la réalité économique de l'autre côté.
Den Schleier dieser völlig falschen Vorstellungen, die heute verbunden sind mit dem Kapital.
Et le rideau de toutes ces représentations tout à fait fausses liées au capital, par exemple.
Mit dem Eigentum, mit dem Einkommen, mit der Arbeit, mit dem Geld.
Avec lié à la propriété, lié au travail, lié à l'argent aussi. Bah, toutes les représentations sont fausses.
Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, ist heute rechtlich geregelt, durch Gesetze, durch Richtlinien, durch Verordnungen.
Et tout ce que je viens de décrire, en fait, aujourd'hui, si on regarde bien, c'est réglé par des lois, par des réglementations.
Hintergrund jedes Gesetzes, jeder Richtlinie, jeder Verordnung steht eine Idee, ein Gedanke.
Et derrière chaque loi, chaque réglementation, il y a une idée en fait.
Also, irgendwann hat ein Mensch gedacht, das wäre eine gute Lösung, hat andere überzeugt und dann wurde es vereinbart.
À un moment ou l'autre, quelqu'un a eu une idée et a dit ça, ça serait une bonne solution pour régler ce problème, et cette personne a réussi à convaincre d'autres personnes et la loi est passée un jour.
Die Tragik ist, wenn die Idee falsch ist, dann wird auch alles, was in der Folge daraus entsteht, falsch.
La tragédie, c'est que si l'idée est fausse, toutes les conséquences, tout ce qui va en découler sera faux aussi.
Ich möchte es halt in aller Deutlichkeit behaupten, dass schon die Grundidee falsch ist, die ich vorhin hier zitiert habe.
Et je voudrais dire d'une manière très précise que l'idée que j'ai décrite au début là, est fondamentalement fausse.
Das sogenannte ökonomische Gesetz,
la soi-disant loi économique,
wonach das Wohl einer Gesamtheit von Menschen umso größer ist, je mehr jeder Einzelne immer seinen Eigennutzen verfolgt.
Cette loi, donc, selon laquelle le bien-être d'une collectivité de personnes est d'autant meilleur que chacun ne pense qu'à lui.
Wir können das jederzeit ausprobieren, in einer Freundschaft, in der Familie, im Betrieb, in der Arbeit.
On peut tester ça à chaque, quand on veut, hein, dans une amitié, dans une famille, dans le travail, dans une entreprise, etc. On peut tester et voir si cette idée tient la route.
Wir versprechen in einer Freundschaft oder in einer Zusammenarbeit von Menschen, wo jeder immer nur an sich denkt und immer sich überlegt, wie kann ich den anderen für meine Zwecke benutzen, da wird am Ende nicht viel rauskommen.
Et ça, je peux vous garantir hein, que, dans, que ce soit dans une amitié ou dans un travail en, en partenariat, un travail collectif entre plusieurs personnes, si chacun ne pense qu'à lui et se dit comment je peux tirer le maximum pour moi du travail avec l'autre, je peux vous garantir que ça ne donnera jamais rien de bon, jamais, jamais de bon résultat. Ça va détruire progressivement la communauté, la collectivité et puis ensuite les êtres humains eux-mêmes.
Aber in einer Gemeinschaft, in der wir den Blick wenden,
et dans une communauté ou une société dans laquelle nous changeons de regard,
und davon ausgehen, dass das Wohl einer Gemeinschaft von Menschen umso größer ist,
et si nous partons de l'hypothèse que le bien-être d'une, d'une collectivité de personnes est d'autant plus élevé,
je mehr jeder Einzelne das, was er weiß und kann und tut, nicht für sich tut, sondern für die anderen.
Hein, donc au contraire, ce bien-être sera d'autant plus important que chacun fait, pense, veut développer pour les autres et pas pour soi-même.
Und umgekehrt, er davon lebt und auch davon profitiert, dass die anderen für ihn tätig sind.
Et que lui peut vivre et peut profiter, peut s'enrichir du fait que les autres, justement, ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais travaillent pour lui-même. Et qu'il puisse s'en enrichir.
Das, was ich eben mit meinen eigenen Worten formuliert habe, das war ein leicht abgewandeltes Zitat von Rudolf Steiner.
Ce que j'ai dit avec mes propres mots, c'était une citation de Rudolf Steiner, légèrement transformée, dit avec mes propres mots.
Er nannte das das soziale Hauptgesetz.
Il appelait ça la loi sociale fondamentale.
Und Sie können überall in der Wirklichkeit prüfen, ob es so ist oder nicht.
Et vous pouvez regarder partout autour de vous dans la réalité. Est-ce que ça s'avère vrai, juste? Est-ce que ça se confirme, cette loi?
Im Wirtschaftsleben ist es so, dass wir längst an diesem Punkt sind.
Dans la vie économique, en fait, nous sommes depuis longtemps déjà arrivés à ce point que chacun travaille pour les autres.
Das heißt, wir arbeiten nicht für uns, wir arbeiten für andere, immer.
Toujours, nous travaillons pour les autres et pas pour nous.
Und die anderen arbeiten für uns.
Et les autres travaillent pour nous.
Und weil jeder nicht an sich denkt, sondern guckt, was brauchen die anderen und was kann ich tun, was für andere von Wert ist. Und umgekehrt, deshalb entsteht so ungeheuer viel auf dieser Welt.
Et c'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont produites sur Terre parce que chacun, dans la mesure où chacun pense à l'autre, il se dit qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, pour que ça aille mieux pour l'autre.
Also, die Wirklichkeit ist schon so, aber unsere Vorstellungen von der Wirklichkeit sind falsch, sind anders.
La réalité, en fait, est comme ça. La réalité économique est comme ça. Mais nos représentations de la réalité sont tout à fait fausses et sont tout à fait différentes de cette réalité.
Und unsere Gesetze sind falsch, die auf diesen falschen Vorstellungen aufbauen.
Et le problème plus important, c'est que nos lois qui se reposent sur ces représentations sont totalement fausses.
Und wenn wir sie nicht ändern, dazu führen werden, dass wir mehr und mehr beides zerstören werden, nämlich die Gesellschaft und die Ehe.
Et si nous ne modifions pas ces lois, ces représentations et ces lois, nous détruirons les deux. Nous détruirons la société et nous détruirons aussi la Terre.
Also wir sehen, der Wandel ist in uns.
Comme vous voyez, la transformation est en nous.
Der Anfang liegt immer bei mir. Ich kann nichts von anderen verlangen, sondern ich muss selbst anfangen, anders zu denken und anders zu handeln.
La transformation est chez moi et je ne peux pas exiger des autres qui se transforment. C'est moi qui dois commencer à penser autrement et à agir autrement.
Nur so kann eine neue, eine andere Wirklichkeit entstehen.
Et c'est seulement comme ça qu'on peut créer une autre réalité.
Aber zugleich ist es so, dass jeder Mensch Ausgangspunkt einer neuen Wirklichkeit werden kann.
Et en même temps, il faut préciser que chaque être humain peut devenir lui-même le point de départ d'une nouvelle réalité, d'une autre réalité.
Meine Erfahrung ist, da wo sie wirklich einen Impuls haben, eine Idee, und die Idee überzeugend und richtig ist, da werden sie sofort Mitstreiter finden, Menschen, die sagen, was kann ich tun, wie kann ich helfen?
Et mon expérience montre que si vous avez vraiment une impulsion, une idée forte, et que vous commencez à en parler, vous allez rapidement trouver d'autres personnes qui voudront se lier avec vous, hein, d'autres personnes qui voudront s'allier avec vous pour, et qui vous diront mais que faire pour faire avancer cette idée, que faire pour développer cette idée.
Also là où wir unsere Gedanken und Ideen ernst nehmen, da haben wir unglaublich viel Hilfe.
C'est-à-dire quand nous prenons nos pensées, nos idées vraiment au sérieux, hein, et nous les approfondissons, là nous trouvons tout d'un coup beaucoup d'aide.
Nur wenn wir niemanden überzeugen und keiner irgendwie bereit ist mitzutun, dann sollten wir vielleicht unsere Idee nochmal überprüfen.
Mais si nous n'arrivons à convaincre personne et que nous ne trouvons pas de personnes qui veulent collaborer, participer avec nous à l'idée, alors là peut-être qu'il faudrait se dire qu'il faut revoir l'idée.
Ich habe mit der Landwirtschaft angefangen.
J'ai commencé par l'agriculture.
Mit dem falschen Denken, dass heute die Landwirtschaft in eine Situation zwingt, in der sie mehr und mehr mit dem Rücken zur Wand steht und ihrer schleichenden Zerstörung zukommt.
Et cette pensée tout à fait faussée qui pousse l'agriculture de toujours plus contre le mur, en fait, hein, et qui l'amène à cette destruction.
Ich habe deutlich gemacht, wie in der Landwirtschaft sich etwas ausdrückt, was ein viel größeres Problem ist, was die ganze Welt heute in Atem und in seinen Krallen hält.
Et j'ai montré comment dans l'agriculture s'exprime quelque chose, en fait, une force ou un esprit qui tient, en fait, de manière beaucoup plus vaste tout le monde, en fait, entre ses griffes, hein, qui en prennent toute l'économie.
Und ich habe deutlich gemacht, wie diese Kraft, die die Welt in ihren Klauen hält, Folge ist bestimmter Gedanken.
J'ai montré comment cette force, hein, qui tient en fait le monde entre ses griffes là, est la conséquence d'une certaine manière de penser, certaines pensées.
Und wir also zunächst unser Denken ändern können und müssen.
Comment nous devons d'abord changer notre pensée, et nous pouvons changer notre pensée.
Und wie durch die Änderung des Denkens eine neue Wirklichkeit entstehen.
Et comment par la transformation de notre manière de penser nous pouvons créer une nouvelle réalité?
Ich meine, dass das dann nicht dabei stehen bleiben muss, dass man für sich selbst in einem kleinen Umkreis etwas anders tut.
Mais je pense qu'il ne faut pas en rester là, hein, de faire ça pour soi-même ou dans des petits cercles, changer de manière de penser.
Ich glaube, dass wenn genügend Menschen in dieser Weise neu und anders denken, daraus eine Kraft entstehen kann, die die gesamte Wirklichkeit verändert.
Et je pense vraiment qu'il y a suffisamment de personnes qui pensent aussi de manière différente, qui peuvent s'allier pour vraiment créer une autre réalité.
Herzlichen Dank und wir haben noch etwas Zeit für Fragen und Gespräche.
Merci beaucoup et nous pouvons encore un petit peu échanger sur des questions ou des contributions.
Bonjour, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le sentiment que j'ai actuellement? Je suis militant syndical. Pour ce qui est de la France, je ne parle pas d'étranger parce que je ne connais pas. Pour ce qui est de la France, je suis assez inquiet. Les droits syndicaux sont en perpétuelle diminution. On voit actuellement... ça, je ne veux pas entraîner une polémique par rapport aux manifs qui ont lieu en ce moment sur le projet de loi sur le travail. Mais quand on voit que les accords d'entreprise, alors que le SOC, en principe, c'est le code du travail, quand on voit que les accords d'entreprise pourront aller à l'encontre du code du travail, quand on voit cette nouvelle loi, on connaissait les secrets d'État, on connaissait les secrets militaires, maintenant il y a le secret des affaires. J'ai le sentiment, en tout cas, que la France et bien des députés européens sont en train de préparer à grands coups de bulldozer l'arrivée du TAFTA, parce que si on ne peut plus analyser les produits qu'on va nous vendre, il n'y aura pas de contestation. Donc le pays, la France, n'aura plus personne pour risquer contester un produit, je dis au hasard, hein, Monsanto, parce qu'on en parlait là beaucoup, on ne pourra plus contester, puisqu'on n'aura plus le droit d'analyser. Et si on analyse, on sera condamné. Les droits des salariés seront extrêmement réduits, puisque 30% dans l'entreprise pourront décider au nom de tous. Et 30%, c'est très très vite atteint quand on sait comment on veut manager l'entreprise. et comment on peut atteindre ces 30% en mettant des petits avantages. Tout le monde connaît les problèmes dans les entreprises ou même dans la fonction publique, les petits chefs, ça existe, il y en a beaucoup des petits chefs dans les entreprises. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce sentiment? Est-ce que je suis complètement alarmiste? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose derrière qui se dessine de très grave? Quand on voit de toute façon le secret autour du DAFTA, on a mis très longtemps à le savoir. Certes, les ONG nous ont alertés, grâce, je pense, à une complicité heureuse de certains députés européens qui ont eu le courage d'informer ces ONG discrètement, évidemment, je n'avais pas le droit de le dire. Mais pouvez-vous éclairer ce sentiment? Est-ce que je suis complètement paranoïaque? Ou bien est-ce qu'on est vraiment en train de préparer ce DAFTA que certaines sommités semblent réclamer à grand cri? Merci.
Ja, vielen Dank. Ich teile Ihre Einschätzung zu TTIP oder TAFTA und ich teile Ihre Sorgen in dem Zusammenhang. Ich will vielleicht nur zwei Sachen ganz kurz in allgemeiner Form zu dem sagen, was Sie am Anfang gesagt haben.
Merci beaucoup. Je partage tout à fait votre inquiétude en ce qui concerne de manière générale le TAFTA, hein, le TTIP. On dit TAFTA en français, je crois. Entre un pays et l'autre. Et puis la baisse des droits de manière générale. Je vais donner deux indications générales.
Wir gehen ja jetzt nicht in den Details. Das eine ist, jetzt unabhängig von Auseinandersetzungen über Arbeitszeit, Arbeitslohn und so weiter, dass ich glaube, dass wir das Verhältnis von Arbeit und Einkommen völlig neu denken müssen.
De manière générale, à propos du travail, en dehors des aspects plus précis ou de détails de durée de travail, de réglementation du travail, je pense que fondamentalement, il faut revoir complètement la relation entre le travail et le salaire.
Ich glaube zunächst mal, dass in entwickelten Gesellschaften wie den unseren es ein Menschenrecht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen geben muss.
Je pense que dans des sociétés avancées comme les nôtres, suffisamment riches comme les nôtres, ça devient un droit humain, il y a un droit humain à un revenu inconditionnel d'existence.
Das heißt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, eine freie und unabhängige Existenz zu führen, zunächst einmal unabhängig von seinem Arbeitsplatz.
Ça veut dire que chaque être humain a le droit d'avoir la vie qu'il souhaite avoir de manière indépendante du fait qu'il ait un emploi ou pas.
Das reduziert auch dramatisch das Erpressungspotenzial gegenüber Menschen von Arbeitgebern.
Ça réduit aussi pas mal la possibilité de faire du chantage et de faire pression sur les la possibilité que les employeurs vont faire pression sur les salariés.
Das führt dazu, dass man überhaupt erstmal auf Augenhöhe kommt, nämlich wo Menschen sich frei entscheiden können, ob sie eine bestimmte Arbeit machen möchten oder nicht.
Et ça pourrait amener vraiment à cette possibilité que les êtres humains puissent décider librement s'ils ont envie de faire tel ou tel travail. Ils ne soient pas obligés de prendre un travail qu'ils ont pas envie de faire pour gagner leur vie.
Économisch ist das überhaupt kein Problem.
Du point de vue économique, ça serait tout à fait possible d'avoir un tel revenu inconditionnel.
Kann ich jetzt nicht ausführen, weil es zu lang dauern würde, aber das ist sauber durchgerechnet.
C'était calculé de manière très précise. Hein,
aber ich möchte was Zweites anschließen, nämlich, ich habe das vorhin schon angedeutet, es ist eine Fiktion zu glauben, dass der Lohn oder das Einkommen, das ich bekomme, das Äquivalent meiner in der Arbeit erbrachten Leistung ist.
La deuxième chose, c'est qu'il faut réaliser que c'est totalement une fiction de croire que, en fait, le revenu que je touche est l'équivalent ou correspond au travail que j'ai donné, que j'ai réalisé.
Niemand kann präzise errechnen in einer global arbeitsteiligen Wirtschaft, was der Anteil des Einzelnen an einem bestimmten Produkt ist.
C'est tout à fait impossible de calculer dans une économie globalisée, avec une division du travail, quelle est précisément la contribution de chacun à ce qui a été produit en collectif.
Donc, die Einkommensfrage ist am Ende im Kern eine Rechtsfrage.
En fait, fondamentalement, la question du revenu n'est pas une question économique, c'est une question légale, une question juridique. Qu'est-ce que nous considérons comme juste, comme revenu? Quel revenu est juste?
Wenn Sie sich da Statistiken anschauen, dann,
si vous regardez les statistiques,
dann können Sie sehen, ich nehme jetzt mal eine Statistik aus den USA.
Ich prends une statistique américaine, non?
Da war im Jahr 1970 das Verhältnis des durchschnittlichen Einkommens eines Industriearbeiters zum Einkommen der obersten Manager im gleichen Unternehmen wie 1 zu 20.
Dans les années 70, la relation entre le salaire de, donc d'un ouvrier dans une entreprise et du patron donc, était de 1 à 20.
Heute ist es in den gleichen Unternehmensgruppen 1 zu 475.
Aujourd'hui, ce rapport est de 1 sur 475. Le patron gagne 475 fois plus que le salarié passe.
Wer entscheidet das? Wie wird das bewertet?
Qui décide ça, en fait? Qui décide ça? Comment c'est? Où c'est? De où ça sort?
Auch die Idee eines Arbeitsmarktes ist in meinen Augen eine falsche, eine perverse Idee.
De même, l'idée d'un marché du travail est une idée totalement perverse.
Die Arbeit ist kein Gut, das ich auf den Markt tragen kann. Das bin am Ende immer ich selbst. Das ist der ganze Mensch.
Parce que mon travail, c'est pas une marchandise que je peux apporter sur un marché et vendre. En fait, dans mon travail, c'est moi, c'est un être humain entier qui est dans le travail, c'est pas une marchandise.
Also wir müssen zu einer ganz neuen Betrachtung kommen und damit auch zu einer neuen Kultur im Umgang mit der Arbeit und mit dem Einkommen.
Ça veut dire qu'il faut arriver à une manière toute nouvelle de considérer le travail et les salaires et donc développer une nouvelle culture du travail et du salaire.
Das zweite,
une réflexion fondamentale.
Und das Zweite, was mir wichtig ist zu sagen, ich versuche es möglichst kurz zu machen, ich habe gerade gesagt, Kultur, eine neue Kultur.
J'ai dit une nouvelle culture, hein, en fait, du travail et du revenu.
Das Zweite, was mir wichtig ist im Zusammenhang mit Ihrer Frage, kannst du nur kurz andeuten.
Deuxième aspect qui est important.
Das ist, dass all solche Dinge, über die wir jetzt sprechen, ja auch Ausdruck sind einer bestimmten Kultur von Menschen.
Toutes les choses dont nous parlons là, ce sont aussi l'expression d'une certaine culture entre les hommes.
Und das ist zur Freiheit des Menschengeschlechts gehören muss, solche Dinge nach eigener Überzeugung frei zu gestalten und zu vereinbaren.
Ça veut dire que ça devrait faire partie de la liberté humaine d'avoir la possibilité de gérer ces questions de manière tout à fait libre, en fait, entre les
hommes. Beispiel, dass in den USA zum Beispiel bestimmte Produkte immer erst einmal auf den Markt kommen können, ohne dass geprüft ist, ob sie gefährlich sind oder nicht.
Le fait que, par exemple, aux États-Unis, certains produits peuvent être mis sur le marché sans qu'il y ait eu un test pour savoir s'ils sont dangereux ou pas.
Und wenn es sich dann als gefährlich erweist und Menschen davon Schaden nehmen oder sterben,
et quand ce produit s'avère dangereux et qu'il y a des gens du coup qui ont des problèmes de santé ou même qu'ils en meurent,
sie dann die Möglichkeit haben, Millionen oder Milliarden zu verlangen als Schadensersatz.
Alors, on a seulement la possibilité de demander des dommages et intérêts, donc des millions ou des milliards en dommages et intérêts, parce que le produit était dangereux.
Das ist Ausdruck einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Auffassung von Freiheit und von Recht.
C'est l'expression d'une compréhension de la liberté et du droit tout à fait particulière, ça. On a le droit de mettre ce qu'on veut sur le marché, et après, c'est un problème dans votre humain.
Und wir haben hier in Europa, in den meisten Ländern Europas, ein anderes Verständnis entwickelt.
Et par exemple, dans la plupart des pays européens, nous avons développé une autre compréhension du droit.
Zum Beispiel, dass wir bei bestimmten Dingen sagen, zum Beispiel Gentechnik oder anderes.
Le fait que pour certaines choses, par exemple, hein, les OGM ou d'autres choses de ce type.
Solange wir nicht sicher sind, dass das keine dramatischen Folgen hat, solange möchten wir nicht, dass das angewendet wird.
Avec le principe de précaution, hein, l'idée de dire tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de conséquences dramatiques, on n'a pas le droit d'utiliser ces
produits.
Et je peux comprendre que les Américains en rigolent et disent mais c'est peureux, c'est une culture de la peur, d'avoir toujours le principe de précaution.
Aber ich möchte die Freiheit haben, dass wir selbst entscheiden, welche Kultur wir kriegen.
Mais je voudrais absolument avoir la liberté de décider quelle culture nous voulons avoir entre nous, de quelle manière nous voulons gérer nos affaires.
Das ist eine andere Seite noch dieses Vertrages. des épées, on leur tisse à même de la fauteuil.
Et l'autre aspect donc, de ce contrat, hein, du tachat justement, ou d'autres contrats de ce type, hein, très
simple. Dass sie den Raum zerstören oder schließen, indem man sowas überhaupt besprechen, verhandeln, vereinbaren kann.
Le deuxième problème, c'est vraiment qu'il ferme tout espace de débat où on peut décider librement de la manière dont on veut. Oui, dont on veut pratiquer ce.
Il n'y a keine freie und auch keine demokratische Frage, sondern es gibt ein ökonomisches Diktat.
Il n'y a plus de système libre et démocratique, il y a un diktat économique.
Deshalb stimme ich Ihnen zu, diesen Vertrag müssen wir verhindern.
Tout à fait d'accord, hein, il faut absolument empêcher le TAFTA, hein, ce contrat. Hein. Merci beaucoup. Une très bonne question parce que le temps est court et je dois rapporter. Mais s'il y en a encore une, on peut la prendre ici. Oui.
Oui, je voudrais dire deux choses concernant l'exposé, et ça tient à la question des idées et de la liberté. En France, il y a un gros problème, c'est qu'on ne croit plus aux idées et on s'occupe d'opinion. Et tous les débats, ce sont des débats d'opinion entre des groupes d'intérêt. Alors les patrons défendent leur opinion, les syndicats défendent leur opinion, les partis défendent leur opinion. Et dans tout ça, ce sont des groupes d'intérêts politiques qui, en fin de compte, se disputent en permanence. Et les gens ne s'y retrouvent plus. Alors je pense qu'il y aurait un saut à faire pour une nouvelle idée, mais qui est une idée révolutionnaire, c'est d'aller vers la suppression des partis politiques qui promettent chaque fois qu'il y a des élections des choses qu'ils vont réaliser, qu'ils ne réalisent jamais. Parce que les gens, en fait, sont assez naïfs pour croire à des idées des autres qui ne seront jamais réalisées. Et donc le problème, c'est que les gens croient à des opinions et qu'ils sont assez naïfs pour croire que les dirigeants vont faire ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que je prône, comme Cohn-Bendit et comme Simone Weil, la philosophe des années 30, la suppression radicale de tous les partis politiques.
Vielen Dank für die prononcierte These.
Merci beaucoup pour la proposition très affirmée.
Ich will nur einen sehr kurzen Gedanken daran anschließen.
Une idée très brève liée à ça.
Ich habe in meinem Heimatland, in Deutschland, eine Bewegung gegründet.
En Allemagne, j'ai créé donc un mouvement, hein, chez moi, dans mon pays.
Die nicht das Ziel der Abschaffung von Parteien verfolgt hat.
Qui n'avait pas pour but de supprimer les partis politiques.
Sondern das Ziel der allmählichen Überwindung der Parteien.
Mais de progressivement surmonter les partis politiques.
Dadurch, dass wir die Demokratie weiterentwickeln.
En poursuivant le développement de la démocratie.
Von einer Demokratie, wo ich nur alle vier oder fünf Jahre die Möglichkeit habe, meine Stimme abzugeben, indem ich eine Partei wähle.
D'une démocratie où j'ai simplement le droit chaque année, tous les cinq ans, de donner ma voix et après, on fait ce qu'on veut.
Hin zu einer Demokratie, wo ich immer noch wähle, aber jederzeit sagen kann, halt.
Mais pour aller vers une démocratie où je vote encore, mais à chaque moment, je peux dire stop.
Diese Frage wollen wir, also nicht die Parteien, sondern die Bürgerinnen und Bürger, miteinander besprechen und am Ende selbst entscheiden.
Cette question-là, nous souhaitons en parler tous ensemble, tous les citoyens, et décider nous, tous les citoyens, et nous la laissons pas aux politiques.
Ich habe meinen ersten Gesetzentwurf dafür Anfang der 1980er Jahre gemacht.
J'ai fait ma première proposition de loi dans ce sens-là au début des années 80.
Und es hat bis 1985 gedauert, bis wir das zum ersten Mal durchsetzen konnten in einem der 16 deutschen Bundesländer, in Bayern.
Et ça a duré jusqu'en 85 avant que cette proposition de loi passe dans un des Landes d'Allemagne, donc en Bavière.
Dann hat es wieder 4 Jahre gedauert, bis wir den zweiten Landkurs
setzen. Et ça a mis à nouveau 4 ans avant qu'on puisse faire passer cette idée.
Dann hat es 2 Jahre gedauert, dann haben wir es im dritten Land geschafft.
Et 2 ans, on a passé dans le troisième Land.
Und dann ging das immer schneller und immer leichter. Und einmal hatten wir ein Jahr, da haben wir in 5 Ländern gleichzeitig Kampagnen gemacht und alle 5 gewonnen.
Ça a été toujours plus vite et une année pendant dans 5 régions d'Allemagne, on a réussi à faire passer l'idée de la possibilité du référendum d'initiative populaire. Hein, c'est comme ça.
Und heute haben wir das in allen Ländern auf der kommunalen Ebene und auf der Ebene des Landes.
Et maintenant, c'est présent dans toutes les régions d'Allemagne, hein, la possibilité au niveau communal et au niveau de la région de déposer un référendum d'initiative populaire.
Und haben, seit wir das eingeführt haben, bis heute 4.800 Initiativen von Bürgern, wo Bürger gesagt haben, wir möchten einen Vorschlag machen.
Et depuis le début que cette loi est passée, il y a eu 4.800 initiatives de citoyens qui ont dit stop, là on veut donner notre avis.
Und mehr als 2.500 Fälle, wo Bürger selbst Gesetze entschieden haben, an den Parteien vorbei.
Et plus de 2.500 cas où ce sont les citoyens qui ont décidé la loi et pas les partis politiques.
Also ich freue mich, wenn Sie in Frankreich nicht nur Meinungen austauschen.
Donc je me réjouis si vous n'échangez pas seulement des opinions en France.
Sondern auch etwas tun, damit der ein oder andere Gedanke die Chance hat, Verbindlichkeit zu erlangen und Wirklichkeit.
Et si vous arrivez à passer au pas suivant qui permet à une idée comme ça de devenir réalité par exemple cet exemple. Voilà.
Ich habe einen weiten Weg. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr losgefahren.
C'est levé à 6 heures ce matin.
Um mittags um 3 hier zu sein.
Pour être ici en début d'après-midi.
Und ich muss jetzt in Jean-Michel zum Bahnhof, damit ich heute vor Mitternacht zu Hause bin.
Voilà, et je dois le accompagner tout de suite à la gare.